Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Transistor, avec le retour de Tina, acronyme de There is no alternative. Et je remercie Quentin qui rejoint l'émission.
Merci Lino et bonjour à tous.
Il a été beaucoup question de politique monétaire lors des interviews que nous avons fait pour les journées de l'économie et qui sont en ligne sur le site de Transistor. Puisqu'il s'agit d'un sujet assez technique, assez compliqué, nous avons décidé de consacrer deux émissions à ce sujet pour discuter de ces fameuses politiques monétaires non conventionnelles. Dans une première émission, nous allons faire un historique de ces politiques. Nous allons d'abord nous demander comment on en est arrivé là et par quelles modalités ces politiques monétaires non conventionnelles ont été exercées. Et dans une deuxième émission, l'on traitera plus du bilan. On essaiera d'évaluer l'efficacité de ces politiques monétaires, ou d'ailleurs l'inefficacité, on ne sait pas encore. Et l'on traitera l'exemple japonais.
There is no alternative.
Quel est vraiment le problème ?
Il passe des choix.
Un problème économique, mais aussi un problème moral.
You'd rather have the poor poor, provided the rich are less rich.
Pour explorer ce sujet compliqué, Lino va d'abord nous expliquer pourquoi on a basculé de politiques monétaires orthodoxes à des politiques non conventionnelles. Ensuite, je vous détaillerai les différentes phases des politiques monétaires non conventionnelles aux États-Unis comme en Europe, ce qui me permettra de vous expliquer pourquoi aujourd'hui on applique encore des politiques monétaires non conventionnelles et quelles sont leurs possibles conséquences, ce que nous aborderons en fait avec Lino dans une prochaine émission.
Si on parle de politique non conventionnelle, c'est qu'il existe des politiques, vous le sentez venir, conventionnelles, qui, dans des situations exceptionnelles comme aujourd'hui, ne permettent plus à la Banque centrale d'atteindre les objectifs qu'elle se fixe. Le premier objectif d'une banque centrale est la stabilité du niveau général des prix, c'est-à-dire que la première fonction d'une banque centrale est de lutter contre l'inflation. C'est une fonction qui fait l'unanimité, quoique l'on s'écharpe parfois sur l'objectif qui doit être atteint.
Oui, Lino, et c'est pour ça d'ailleurs que l'objectif affiché de la Banque Centrale Européenne, et ce depuis sa création en 1999, est une inflation contrôlée à 2%, comme cela est inscrit dans le traité de Maastricht.
Exactement, et vous voyez qu'on est bien en dessous aujourd'hui, ce qui n'est pas un gage de réussite. L'objectif d'une banque centrale n'est en effet pas d'éradiquer l'inflation, car un peu d'inflation est nécessaire à la bonne vie du système économique. L'objectif est seulement de la limiter, car trop d'inflation rend instable le système économique. À côté de cet objectif d'inflation faible, la banque centrale a d'autres objectifs. La stabilité des marchés financiers, par exemple, en est un objectif, puisque la banque centrale a un rôle de contrôle sur ces marchés, c'est même la fonction qui l'a fait naître. Un dernier but que se fixent les banques centrales et qui justifie l'interventionnisme de ces banques depuis 2008 est l'objectif de stabilité macroéconomique. En période de crise, comme aujourd'hui, la banque centrale va agir pour créer de la croissance, alors qu'en période de croissance, comme c'était le cas lors des années 2000, elle devrait mettre le pied sur le frein pour ne pas que l'économie surchauffe. Ce que d'ailleurs, on peut le dire maintenant, la banque centrale, la Fed, n'a pas fait.
Pour résumer, donc, si je comprends bien, les deux grands objectifs d'une banque centrale sont la stabilité des prix et la stabilité des cycles économiques, c'est-à-dire l'alternance crise-croissance, 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 etc., avec éventuellement des objectifs seconds, comme par exemple la stabilité des marchés financiers. C'est bien ça ?
Oui, c'est tout à fait ça. La banque centrale dispose de tout un arsenal, plus ou moins efficace, d'instruments pour atteindre tel ou tel objectif. Normalement, on assigne à un instrument seulement un objectif, parfois deux, s'ils ne sont pas contradictoires, pour éviter qu'une action qui vise à atteindre un objectif détériore l'autre. Normalement, le taux d'intérêt est le principal instrument dont dispose une banque centrale. La banque centrale détermine des taux de court terme, c'est des taux, alors il va y avoir des taux au jour le jour, et des taux un peu plus courts, de l'ordre du mois, et qui vont en fait, ces taux vont influencer l'ensemble des taux plus longs, 3 mois, 1 an et plus. La banque centrale va agir sur l'économie réelle, puisque le taux d'intérêt représente le coût de financement pour les emprunteurs, et à l'inverse, est une rémunération pour les créanciers. Je vous prête mon argent, je reçois une rémunération qui est le taux d'intérêt. C'est ce qu'on appelle le canal de transmission du taux d'intérêt. En résumé, la politique monétaire conventionnelle, après avoir défini un certain nombre d'objectifs, comme la stabilité macroéconomique, la stabilité du niveau général des prix, utilise comme instrument le taux d'intérêt qui, par différents canaux, va agir sur l'économie réelle.
Et pourquoi on n'utilise pas cet instrument aujourd'hui ?
C'est là que le bât blesse, et c'est pourquoi on est passé à une politique monétaire non conventionnelle. On a déjà fait ce qu'on pouvait du côté de la politique monétaire conventionnelle. Les taux ont été violemment baissés pour limiter le choc de la crise financière. Ils sont passés en très peu de temps de 5 à 0%. Et en temps de crise, on a une contraction des marchés de la monnaie, plus personne ne se prête. Donc ce qu'a fait la Banque centrale, c'était d'injecter des liquidités pour éviter que la contraction monétaire se transmette à l'économie. C'est facile à imaginer, si personne ne prête à personne ou si on ne prête qu'aux riches, l'économie va s'effondrer. Les banques centrales ont ainsi, avant même de passer par du non conventionnel, injecté des masses énormes de liquidités. Mais une fois qu'elles ont atteint le taux nominal à 0%, elles se sont retrouvées face à un plancher. Elles n'ont pu descendre en dessous. Cette situation est ce qu'on appelle, dans notre doux jargon d'économiste angliciste, le « zero lower bound », avec un superbe accent qui est en fait une frontière pour le taux nominal, qui ne peut descendre en dessous de 0%.
Mais du coup, Lino, les taux négatifs existent. On en voit par exemple parfois dans la zone euro.
Oui, totalement. Mais c'est très rare. C'est d'ailleurs une forme de politique monétaire non conventionnelle, quoique qu'elle soit assez exceptionnelle et très peu appliquée. Par exemple, cela n'existe pas aux États-Unis. Et en Europe, c'est pour un financement de très court terme, donc du jour le jour. C'est pour que les acteurs bancaires, qui disposent de liquidités énormes, arrêtent de placer par sécurité leur argent à très court terme et investissent plus dans le long terme, ce qui va relancer l'économie. En fait, l'usage d'une politique monétaire non conventionnelle va se justifier pour deux raisons. La première, c'est que l'on ne peut plus vraiment agir sur l'économie puisque le principal instrument de la politique monétaire, le taux d'intérêt, est bloqué à 0%. La deuxième raison, c'est que malgré l'injection massive de liquidités par les banques centrales, l'investissement, qui est le moteur du redémarrage de la croissance, n'est pas reparti. C'est ce qu'on appelle en économie une situation de trappe à liquidités. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent sur les marchés monétaires, plus que jamais, mais personne ne l'investit parce que les anticipations sont pessimistes. Keynes, dans la théorie générale, a bien montré que dans une telle situation de trappe à liquidités, la politique monétaire habituelle est inefficace. Alors, ce que j'appelle politique monétaire habituelle, c'est la politique monétaire conventionnelle, mais le terme n'existait pas à l'époque de Keynes. Keynes l'a dit, il faut des mesures exceptionnelles. Pour lui, c'était l'intervention de l'État. Plutôt que de passer indirectement par des acteurs, qui sont les banques, qui vont craindre la prise de risque à cause d'anticipations pessimistes, autant injecter directement l'argent dans l'économie, ce sera plus efficace. Et l'État peut le faire. Et c'est ce que, avec les politiques monétaires non conventionnelles, on essaye de faire. Et on découvre que la Banque centrale, en fait, a un certain pouvoir là-dessus. C'est du pragmatisme. Il n'existe pas encore de théorie rigoureuse de la politique monétaire non conventionnelle. On expérimente. C'était nécessaire, mais on ne sait pas trop encore où on va. The central bank's interest rate policy tanks, a liquidity trap, that new money stuck in the banks. Deficits could be the cure you've been looking for. Let the spending soar, now that you know the score. My general theory's made quite an impression. Revolution. I transformed the econ profession. You know me, modesty, still I'm taking a bow. So say it loud and say it proud, we're all Keynesians now. Et oui, Lino, on s'imagine souvent que le banquier central est une personne très intelligente ayant fait beaucoup d'études en économie et qui se contente d'appliquer des mécanismes bien connus afin que l'économie reparte. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de formule magique. De nombreux éléments entrent en ligne de compte dans la détermination d'une politique monétaire. Et c'est bien souvent l'inventivité et un sens de l'improvisation à partir des théories connues qui font un bon banquier central. Et c'est ce qui se passe depuis la crise.
Tout à fait, Lino. À la suite de la crise des subprimes en 2007 et surtout de la faillite de la banque Lehman Brothers en 2008, les banques centrales se sont rapidement retrouvées à court d'instruments conventionnels. C'est la panique sur les marchés et les banques classiques se sont d'un coup rendu compte que les risques étaient bien supérieurs à ce qu'elles avaient imaginé. Chacune risquait d'y passer. Du coup, elles ont tout arrêté de se prêter de l'argent, ce qui a entraîné un assèchement de la liquidité sur les marchés. C'est très mauvais, un peu comme si d'un coup vous n'aviez plus de sang dans votre corps.
C'est donc la panique généralisée des banquiers et l'absence totale de liquidité des marchés qui a décidé les banques de mettre en place des politiques non conventionnelles, quand même.
Pas tout à fait, mais en grande partie. C'est en tout cas théoriquement vrai. Mais pour comprendre pourquoi on en est venu à utiliser des politiques non conventionnelles, il faut remettre ce problème dans le contexte approprié. En effet, la situation entre les États-Unis et l'Europe à cette période est très différente. Si les deux banques réagissent immédiatement, après la faillite de Lehman Brothers, en abaissant leur taux d'intérêt, la BCE le fait plus lentement car la situation en Europe est moins préoccupante qu'aux États-Unis. En Europe, l'économie est essentiellement bancaire. Les acteurs sur les marchés financiers empruntent auprès des banques pour effectuer leurs opérations. Et, en cas d'assèchement de la liquidité, il suffit d'en redonner auprès des banques pour que celles-ci prêtent de nouveau aux agents. À l'inverse, la situation américaine conduit la Fed à mettre en place très rapidement une politique dite non conventionnelle, le quantitative easing. Car aux États-Unis, la question est un peu plus complexe. Il n'y a pas que les banques qui prêtent de l'argent et qui agissent sur les marchés financiers. Il existe un ensemble d'organismes à qui la banque centrale ne prête pas normalement d'argent, mais qui exercent un rôle très important.
Oui, c'est ce qu'on appelle le « shadow banking system ».
Tout à fait. Pour faire simple, l'absence de régulation des marchés et la facilité du crédit fait dans les années 1990 et 2000 dont tu parlais tout à l'heure ont permis l'essor de nouveaux intermédiaires financiers qui en 2008 sont en grande difficulté et qu'on ne peut pas laisser tomber sous peine de voir le système entier capoter. Money, get back. Il fallait donc trouver une autre technique, non seulement pour fournir de la liquidité au marché, mais également pour modifier les taux de long terme, que les banques centrales ne contrôlent pas directement et qui déterminent pourtant le comportement des agents.
Et Quentin, quels sont les mécanismes du quantitative easing ?
Alors, le quantitative easing est une mesure non conventionnelle qui, lorsqu'on est dans une situation de zero lower bonds, permet de donner des liquidités au marché et de les rassurer en montrant qu'on va soutenir les cours. Qu'est-ce qu'on fait ? On met en place des programmes massifs de rachat des dettes de ces établissements de crédit touchés par la crise, sans stériliser les interventions.
Attends, Quentin, une seconde. Je suis pas sûr que nos auditeurs connaissent tous le principe de la stérilisation. Moi-même, je me suis trompé hier dessus, donc est-ce que tu pourrais nous l'expliquer ?
Oui, bien sûr. Normalement, lorsqu'une banque centrale effectue des opérations sur un marché monétaire dans le but de donner davantage de liquidité à un marché qui en manque, elle prend soin de stériliser son intervention en revendant après les actions qu'elle a détenues un moment dans le but d'inciter les agents à prêter en leur donnant de la liquidité. Il existe d'autres mesures de stérilisation, comme l'augmentation des réserves obligatoires. Toutes ces mesures visent à effacer les effets secondaires de l'intervention de la banque centrale, afin d'éviter un excès de liquidité qui crée de l'inflation. C'est un peu comme un chirurgien qui fera attention à ne laisser aucune trace après son opération. Or actuellement, le risque d'inflation est quasiment nul, et comme la banque centrale rachète des actifs de mauvaise qualité, dont les agents cherchent à se débarrasser, personne ne voudra les racheter ensuite, et donc elle les conserve. La Fed a également racheté des bons publics à plus long terme, pour justement détourner les investisseurs des bons du trésor, qui sont toujours une valeur sûre en cas de crise, afin de les orienter vers le secteur privé pour soutenir l'activité. Pour l'Europe, la situation est différente, car les défis ne sont pas tout à fait les mêmes. Du fait de la prédominance des banques dans l'économie européenne, l'essentiel des actions de la Banque Centrale Européenne, au début de la crise, se sont concentrées sur un soutien aux banques avec l'ouverture de lignes de crédit illimitées afin qu'elles puissent de nouveau prêter aux entrepreneurs et éviter ce que l'on appelle un « credit crunch ». Mais avec la crise des dettes souveraines en 2010, la situation devient très vite problématique. Traditionnellement, la Banque Centrale dispose d'une marge de manœuvre assez limitée, car son rôle est explicitement écrit dans le traité de Lisbonne. Elle ne peut donc pas s'écarter de sa mission unique qui est la stabilisation des prix. Mais au début du mois de mai 2010, la rumeur se répand que les pays d'Europe du Sud, la Grèce, l'Espagne et l'Italie,
les pigs,
seraient bientôt en défaut de paiement. Le cours des banques de ces pays, mais également de quelques banques françaises, chute fortement et un risque d'insolvabilité émerge. Face à ce danger, le président de la Banque Centrale Européenne à l'époque, Jean-Claude Trichet, met en place le programme SMP pour Security Market Programme, qui vise à pouvoir acheter de la dette publique et de la dette privée sur les marchés secondaires.
Les marchés secondaires, ce sont les marchés où circule la dette qui a déjà été émise.
Tout à fait, Lino, merci de la précision. Juridiquement, elle se fonde sur le fait qu'il n'est pas explicitement interdit par les traités de racheter de la dette sur le marché secondaire. alors qu'un achat direct par la banque centrale aux États équivaudrait à un prêt, ce qui lui est explicitement interdit. D'ailleurs, le traité de Lisbonne autorise à venir en aide aux États européens en difficulté en cas de circonstances exceptionnelles. La BCE fera ensuite évoluer le programme SMP avec en 2012 le programme OMT pour Outright Monetary Transaction, qui conserve le même principe de rachat de dette sur le marché secondaire mais qui, avec l'urgence de la crise passée, s'accompagne de conditions plus strictes, notamment sur les ajustements des économies. En gros, on vous prête, mais il faut que vous fassiez des efforts.
Mais ce que tu décris, rachat de dette, d'actifs risqués, ça ressemble tout de même beaucoup au quantitative easing de la Fed. Est-ce que tu peux expliquer les différences ?
Eh bien, c'est vrai que le principe de rachat d'actifs est le même. Mais la seule différence, et non des moindres, c'est que la BCE stérilise systématiquement son action lorsqu'elle intervient sur les marchés afin d'éviter toute inflation et de ne pas déplaire à nos amis les Allemands pour qui la stabilité des prix est très importante.
Je connais cette théorie.
Elle le fait également pour respecter son mandat de lutter contre toute inflation. Et c'est d'ailleurs en gardant ce mécanisme de stérilisation et ce risque d'inflation en tête que l'on peut comprendre la récente volonté de la BCE de faire du quantitative easing. En effet, le problème numéro un dans la zone euro aujourd'hui n'est plus l'inflation, mais bien au contraire, la déflation. La déflation, c'est quand l'ensemble des prix des biens diminue durablement. Alors on pourrait croire que c'est bien, mais en fait, les effets de la déflation sont dévastateurs. Car tout d'abord, les agents, comme vous et moi, renoncent à consommer. En effet, pourquoi acheter aujourd'hui ce que l'on peut acheter demain moins cher ? Le problème majeur, c'est ce que l'économiste Irving Fisher appelle la déflation par la dette. Imaginons que vous empruntiez le lundi 100 euros à un ami que vous promettez de lui rembourser vendredi avant le week-end. L'économie est en déflation, donc l'ensemble des prix aura diminué. Sauf que votre dette, à vous, sera toujours de 100 euros. Et donc, par rapport au reste des prix, vous devez rembourser plus. Eh bien, lorsqu'il s'agit d'État et de milliards d'euros, cela devient impossible pour lui de se désendetter. C'est donc pour éviter cela que la BCE a mis en place une politique de quantitative easing. En arrêtant de stériliser ses opérations pour essayer de contrer cette spirale déflationniste qui semble s'installer en Europe.
Merci Quentin pour nous avoir détaillé le quantitative easing, les différentes phases de ce programme de rachat. Et donc maintenant, vous êtes incollable sur ce qui s'est passé. Et nous aimerions, dans une prochaine émission, que vous deveniez incollable sur les conséquences de cette politique et donc juger de l'efficacité ou non de ces programmes. Donc pour cela, nous vous avons mis en ligne un lexique détaillé du jargon que nous avons employé, qui est parfois un peu obscur. Et dans la prochaine émission, nous essaierons d'évaluer vraiment les conséquences.
Et nous finirons, Lino, par un petit détour du côté du Japon, qui a mis en place une politique économique radicalement innovatrice, les Abenomics, afin de sortir de la situation difficile que connaît le pays, non pas depuis la crise de 2008, comme c'est à peu près le cas pour l'ensemble des pays, mais depuis plus de 20 ans. Cela remonte au début des années 1990.
Merci Quentin, merci les auditeurs.
Merci Lino, et l'on se quitte avec ce qui va malheureusement nous arriver en Europe si la politique de la BCE ne marche pas. Vous la sentez venir, elle est très drôle. Voici Money for Nothing de Dire Straits. Et l'on espère vous revoir très bientôt, ne serait-ce que pour la prochaine émission sur les ondes de Transistor.
À bientôt.